to the next level.
T'as du feu?
Bah, c'est interdit de fumer ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui bat en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous allez faire passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, l'émission du cirque, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h.
Bonsoir.
Nous sommes avec vous pour vous parler de chambre, de cannabis, de toute l'actualité politique sur ce sujet de part et d'autre. On va commencer avec des brèves. Avec
des faits divers.
Des faits divers, mais tués pour 40 euros.
Qui sont très parlants de ce qui se passe
en
situation
qui,
de prohibition.
15 grammes en récidive, arrive à prendre 14 mois ferme. Un autre qui est dénoncé par sa belle-fille, comme quoi il faut faire attention avec sa famille. Voilà, bon, ça, et puis toujours dans les brèves, à Compiègne, un mail pour, contre les trafics de drogue. Comment ils veulent, la municipalité a décidé de prendre le taureau par les cordes et de trouver des nouvelles solutions. À Forbach, alors là c'est un trafiquant qui porte plainte contre la police parce qu'a priori pendant son sa garde à vue, il s'est pris quelques coups. Voilà, et puis un fait divers dont on avait beaucoup parlé il y a quelques temps, vous savez, c'était la saisie record de 7 tonnes de cannabis sur les grands boulevards. Et ben là, il y a un article où on revient un petit peu dessous. Sur le dessous des cartes, parce que ça serait pas si clair cette histoire-là, et qu'il y a peut-être des histoires d'indic là-dedans. Bon, on verra bien.
Ouais, puis bon, Hollande s'était quand même sacrément ridiculisé en se rendant sur place pour féliciter la police et tout, en espérant qu'un coup fatal aurait été porté au trafic de drogue en France.
Non, mais en plus, c'était les douanes.
Là, quand on voit l'article, on se dit vraiment, ils nous se foutent de nous, quoi. Comme si c'était pas la première fois.
Sinon, on reviendra sur un petit article positif avec l'ONU. Alors là,
ouais, t'as trouvé toi.
Si. Alors, il faudrait.
Je m'y fais pas, mais bon.
Il faut arriver à mettre fin à la prohibition.
Ah mais ça, on est d'accord.
C'est déjà pas mal là. Après,
on débattra tout à l'heure.
Pas trop loin. Hein. Il faut réexaminer les politiques et les pratiques.
C'est du statu quo.
Et penser à la santé mentale des utilisateurs.
Ah, c'est de l'avance freinante, on appelle ça.
Mais c'est la santé mentale des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils sont les utilisateurs? Ils sont délinquants forcément à cause de cette loi. Et c'est ça leur trouve, c'est difficile.
C'est difficile. Quoi qui est difficile?
D'être considéré comme un délinquant tout le temps.
Ah parce oui, c'est insupportable.
C'est même insupportable, voilà. Donc c'est pour notre santé mentale. Au moins, on n'y pense pas souvent, mais là, moi, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je vois que c'est positif, parce que je me dis, pour une fois, ils essayent de voir les choses un petit peu autrement. Voilà. Sinon, après, de quoi on va parler aussi? 20 minutes, on va revenir sur le cannabis thérapeutique. 23e état.
Non, excuse-moi, c'est une erreur. Excusez-moi, je m'excuse auprès de nos auditeurs et auditrices. C'est une erreur de ma part en construisant la revue de presse. Voilà, c'est une erreur. Passe à l'article d'après.
D'accord, j'ai été incomplet en plus, il manquait des.
Je me suis trompé. Des fois, je me trompe. Tout le monde peut se tromper.
Après un article suisse, la guerre à la drogue s'éteint. Et après, un autre article international sur qui parle de l'UNGAS, voilà, qui. Bon.
Un
article belge.
Un article belge d'une revue sur l'économie, en fait, au sujet de l'économie. Mmh. Parce que maintenant, voilà.
C'est un sujet économique. Hein,
oui, mais bon, depuis, c'est pas le seul, mais The Economist qui a fait un super article. D'autres journaux économiques, celui-là étant belge, s'intéressent et donc traitent le sujet. Mm. Voilà. Et alors,
Après un article, par contre, dont on parlera sans doute, oui, sur l'Uruguay, sur le bilan au bout de 3 ans. Bien que
on n'apprend pas grand-chose dans l'article.
On n'apprend pas grand-chose dans l'article, voilà. Et le bilan, c'est pas au bout de 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'ils ont voté, mais le temps de faire les décrets d'application, il s'est bien déroulé plus d'un an, voire 2 ans, donc fait pas si longtemps que ça s'est vraiment en état en Uruguay. Par contre, bon, voilà, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, il y a un autre article, légaliser la marijuana, un vrai casse-tête, point d'interrogation.
Au Canada.
Au Canada, voilà. Et il regarde un petit peu ce qui se passe justement au Colorado et tout ça. Bien que les articles soient pas que positifs, mais bon, on verra. Et puis, je sais pas si on parlera de ça à la fin, mais en tout cas, on va juste l'annoncer là quand même. C'est sur le cannabis thérapeutique, de l'huile, donc à base de champ forcément, et plutôt des plants avec plus de CBD que de THC. Donc avec de l'huile au CBD pour sauver les enfants.
Voilà. Pour soigner les enfants, pour soigner les gens et on les enfants. Et les sauver, je ne sais pas si on peut les sauver.
C'est l'article, c'est pour ça que je dis
oui,
ça.
Enfin, bon, c'est un point d'interrogation à la fin de du titre de l'article quand même.
Voilà, tout à fait. C'est un journal.
Prudent, quoi.
Un journal canadien.
Le journal de Montréal, pour ne pas le nommer, pour que vous sachiez toutes et tous d'où on prend nos sources, parce que ça ne sort pas de nos poches et de nos têtes, tout ce qu'on vous dit.
Voilà. Puisque en plus aujourd'hui, a priori, on peut se procurer gratuitement, quand on est canadien, cette huile pour se soigner, l'épilepsie entre autres.
Voilà. D'accord. Bon, voilà, on essaiera de traiter cette info à la fin de l'émission, si on arrive jusque là.
Et là, j'ai quand même des gros doutes. Hein.
Voilà. Bon, en attendant, musique, à tout de suite.
J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes.
Fumer.
J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que le commerce fait recette.
Va te fermer.
J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent.
Et que j'en donne à des gens
qui allègrement amassent les bagues en diamant
sur dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins,
décorer les balcons. Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pilons.
Y'a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes pilons. C'est une malhonnête
serve à nos dirigeants
qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette
c'est pas bon pour les gens.
J'ai compris que pour du chichon tu peux aller en prison,
que l'alcool tu as foison,
que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons,
c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins, décorer les balcons.
Expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon.
Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
On arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom.
J'ai la solution, des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boom.
Voilà, un moyen de s'écouter qui alors?
Ben, c'était Trio, La Main Verte. Un morceau qui, franchement, va pas tarder d'avoir 20 ans. Le 98, je crois, la sortie de l'album de Trio, enfin le premier, quand ils ont sorti l'album avec cette chanson qui les a lancés. Bientôt 20 ans. Et je pense qu'à l'époque, quand ils ont sorti l'album avec la chanson, il y en a plein qui se sont dit ouais, c'est bon, c'est gagné, ça légale bientôt. En plus, Trio, ils font un album, La Main Verte, avec une feuille de cannabis sur l'album, sur la couverture de l'album, la chanson, machin. Voilà. 20 ans après, ben, vous voyez. En France, on n'est pas pressé.
Bah, dans le monde non plus, hein. Même si ça a peut-être évolué, on va arriver dessus là tout à l'heure. Allez, on va partir dans les brèves très 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 rapides.
Les faits divers, oui, vraiment vite. Hein.
Ouais, parce que j'ai même pas tout vérifié ce que c'est, donc celle-là elle vient de France 3, donc ça doit pas être trop n'importe quoi. Le titre, c'est Orbet, c'est dans le Bas-Rhin. Hein.
Tu me laisses faire si tu veux, je vais vite.
Après la mort d'un adolescent pour 40 euros de cannabis. Vas-y.
Oui, non, mais juste, voilà, c'est un fait divers vraiment dramatique. Encore une fois, on voit que la prohibition tue, malheureusement. Hein. Voilà, une petite histoire d'usage-revente, de revente de cannabis pour une valeur de 40 euros, hein, donc rien du tout. Voilà, un jeune homme donc, de 17 ans, pour voilà, une histoire de vente de cannabis pour 40 euros, il a pris plusieurs coups de couteau. Il avait 17 ans, il est mort. Voilà.
Ouais, bon, il faudrait savoir exactement ce qui s'est passé, tout ça, mais voilà, c'est dramatique.
Mais bon, pour 40 euros.
Pour 40 euros, même si il y a un petit peu autre chose là-dessous, des histoires sentimentales ou n'importe quoi, parce qu'on ne connaît pas tout. Pour 40 euros ou de se prendre des coups de couteau, de toute manière, c'est n'importe quoi. L'autre de la dépêche est un petit peu plus, voilà. Plus intéressante. C'est un jeune homme qui a pris 14 mois ferme pour 15 grammes de cannabis en récidive. Donc voilà, c'est pas la peine plancher, mais ça en est pas loin. Hein.
Wow.
C'est un pauvre jeune, a priori, qui a des soucis depuis longtemps, qui a été souvent en prison et autres, qui a eu pas mal de condamnations, qui avait du sursis sur lui. Et donc, là, il vient d'avoir 18 ans.
Ouais.
Et donc, il a arrêté. Il a dit, mais monsieur, j'ai que de l'herbe. Mais ça n'empêche pas qu'il a été, voilà, que malgré tout son parcours difficile, on l'a envoyé donc 14 mois de ferme.
Voilà, ben, cet article encore une fois pour illustrer un peu ce qu'on dit régulièrement, c'est-à-dire que on peut aller en prison pour du cannabis, même en étant un consommateur. Bon, effectivement, c'est pas sa première condamnation. Il est déjà connu de la police. Donc voilà, vous pouvez finir en prison pour du cannabis. Voilà. Il y a beaucoup de gens en France hein, qui sont concernés par autre chose que le primo usage ou la première arrestation.
Bah voilà, là c'est aussi
ça concerne du monde, hein.
Le cas d'un autre, lui, il a pas eu de chance quand même, donc il avait déjà un bracelet électronique. Et puis comme il voulait continuer à fumer, il s'est dit qu'il allait les faire pousser à domicile. Sauf que sa belle-fille dans ce cas-là, mais ça pourrait être sa fille, hein, parce que ça arrive partout.
Oui, oui, bien sûr.
Une collégienne de 14 ans, elle disait, était voir la principale et lui en a parlé. De cette culture à domicile. Voilà, donc il s'est fait prendre, alors qu'il venait de commencer sa culture.
Ah, il s'est fait prendre par la police, hein, pas par la principale du collège. Police, hein. Enfin oui. Bon, en tout cas, voilà, encore une fois, on parle de ça parce que si vous avez des enfants et que vous êtes consommateur, amateur, cultivateur, vous prenez les risques.
Ouais,
mais ça peut mal se finir, voilà, c'est tout.
C'était pareil, moi je me souviens, j'avais une copine d'un site qui m'avait raconté un jour, quand elle dans une discussion sur les plantes et tout ça, il y en a une qui est sortie, oui, mon papa ou mon tonton, il fait pousser du thé sur le balcon.
Heureusement que c'était elle qui était l'instite à ce moment-là, et qui aura couvert.
Oh bah, je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont compréhensifs.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ils sont peut-être même plus nombreux que les...
Voilà.
Les...
On sait qu'il y en a qui sont pratiquants aussi.
Que les délateurs.
enfin, dernier article dans la rubrique un peu fait divers. Là, c'est quoi? Ça se passe à Compiègne. Hein. C'est le Courrier Picard qui nous en parle. Donc, ça se passe à Compiègne, plus précisément dans un quartier qui s'appelle le Clos des Roses. Et donc, à partir de la semaine dernière, les habitants de ce quartier qui ont peur des représailles pourront contacter la police par mail pour dénoncer les trafics de drogue. Voilà. On va... C'est bien, on glisse hein, de plus en plus vers des trucs...
Je
sais pas comment dire.
C'est de la délation. Hein, l'appel à surveiller son voisinage.
Ouais, enfin, on arrive... Enfin, ça me fait penser à une dictature, quoi. On glisse de plus en plus vers ce genre de société, vers ces méthodes... Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'en dire plus. Hein. Ce que disent les autorités, c'est que cette boîte mail doit permettre à chaque citoyen de transmettre au service de la police nationale toute information utile dans la lutte contre le trafic de drogue se déroulant au sein du quartier. Donc, il y a un procureur qui est dedans, hein, qui dit qu'il faut déjouer cette prétendue loi du silence. Beaucoup d'habitants sont prêts à se mobiliser pour reprendre le contrôle de leur garde, de leur cadre de vie. Voilà, donc un mail si vous habitez Compiègne et que vous voulez signaler des faits de trafic de drogue dans votre quartier en bas de votre immeuble. Alors, les autorités disent que, attention, il ne s'agit pas pour les habitants de témoigner, c'est justement pour éviter d'en arrêter là, mais d'apporter des informations. Voilà ce que dit le commissaire. Nous n'en avons pas tant que ça, des informations. Hein. Les gens des quartiers n'ont pas le réflexe de nous appeler, de venir nous voir. Le mail offre aux citoyens un accès simple à la police. Et alors, j'aime bien la fin. Surtout avec toutes les histoires de ripoux qu'il y a eu. Je vous la cite quand même. Hein. Alors, le journaliste pose la question à un risque de tomber dans la délation. Et le policier nous dit non, attention, les policiers ont suffisamment de discernement pour analyser les éléments qui leur sont apportés. Voilà. Alors, visiblement, il y a quand même beaucoup de policiers qui n'ont pas suffisamment de discernement pour piquer les produits des saisies dans les commissariats de police et pour en faire ce que bon leur semble. Mais ouais, bon, mais en tout cas, ils auront du discernement pour savoir. Indiques. Pardon ?
Il y a le 10% pour les indiques.
C'est ça le discernement, donc.
Ouais, ah, d'accord. Ça, okay. On va en venir juste à l'article après.
Enfin, en tout cas, ils ont du discernement pour savoir si c'est de la délation ou pas. Ça, ils en ont, paraît-il.
Voilà. Sinon, l'article suivant, ça vient du Républicain Lorrain.
Voilà. Ils ont aussi du discernement suffisamment pour pas frapper les prévenus. Sauf que,
donc,
des fois.
C'est à fort battre. C'est donc un trafiquant de drogue qui porte plainte contre la police. Alors, le trafiquant de drogue, attention, c'est quand même, il n'est pas trop méchant, hein, quand même. Hein. C'est un fort bachois, donc de 33 ans, hein, qui a une petite plantation chez ses parents.
Oui, donc déjà, le mot trafiquant est limite diffamatoire.
Ils lui ont trouvé 400 grammes d'herbe de cannabis, des substituts d'héroïne.
Ouais, du Subutex.
Voilà. Puis après, ils sont allés encore fouiller ailleurs, et puis ils ont encore trouvé des sachets d'herbe de cannabis. Ah, c'est peut-être ses feuilles, tu vois. Ils ont compté ses feuilles.
Oui, parce que...
Voilà, ils ont trouvé 4,7 kg au final.
On ne sait pas ce que c'est, en fait. Ça se trouve, il y a toute la plante avec, toute la tige, toutes les...
Même les pots, de
même
temps
les
en temps.
Pots avec, voilà, ouais. Ça fait 4,7
kg. On a eu
ouais, ils
ça,
en sont capables. Hein. Là, ils n'ont pas beaucoup de discernement, par contre. Hein.
Voilà, donc à la fin, il s'est fait... Il dit qu'il a pris des coups de poing, un coup de poing dans les yeux, et puis qu'il est... Il s'est fait taper deux fois par un des policiers. Et du coup, il a passé un scanner qui, on dit qu'il avait le nez cassé. Donc voilà, il porte plainte contre la police. Et a priori, ça va peut-être même aller jusqu'à l'IGPN. Voilà, en parlant de faits divers importants, celui-là, il est quand même un peu plus intéressant, ça nous montre...
On va essayer d'aller vite quand même, parce qu'il est déjà 9h20.
Ouais, il est un peu long aussi.
Ça serait bien qu'on s'attarde un peu plus sur ce qui se passe ailleurs.
Voilà, donc c'est quand les saisies records révèlent les liaisons dangereuses entre stupes et indiques. D'où ce que je disais tout de suite. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était en octobre dernier, donc c'est les douanes. Et non pas la police, hein, c'est bien les douanes qui effectuent une saisie record de 7 tonnes de résine de cannabis dans l'ouest de Paris. Hein.
Dans le 16e précisément, rue Exelmans.
Ouais.
Dans une rue chouette, hein, dans le quartier. Quoi.
L'affaire était très belle, 4 fourgons de police, voilà, une saisie record. L'enquête, c'était donc la DNRED, sa Direction Nationale des Renseignements et des Enquêtes Douanières. Donc eux, selon leur truc, c'est qu'ils étaient tombés sur une voiture qu'ils ont pris pour une voiture ouvreuse, ce qu'ils racontent. Bref, ils ont fait parler le mec, a priori, et ils ont trouvé un véhicule abandonné avec 1,9 tonne de cannabis. Et puis encore en cherchant de fil en aiguille, ils sont arrivés sur ces 7 tonnes. Qu'un indique leur a donné, quoi, tu sais. Et donc, on apprend un peu plus loin que, en fait, ces 7 tonnes étaient suivies par l'octrice. C'est l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Et en fait, en gros, ils emmenaient donc les 7 tonnes, ils les surveillaient, c'était pour voir qui allait les revendre. Et pour savoir qui étaient les gros réseaux. Et les gros ponts, savoir qui était. Bah, il faut quand même avoir un peu de caillasse pour arriver à acheter déjà une tonne. Déjà un kilo, bah, une tonne, voilà. Donc ils cherchaient les gros et ça aurait été le but de ces quais de camions garés, donc juste sous la, chez l'Indic d'ailleurs.
Oui.
Donc il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Donc on voit bien un peu les relations donc, entre les Indic et justement...
En même temps, après il y a... quelque part un policier, je vais le dire de tête parce que je me rappelle pas exactement ce qui.
Donc là-dessus normalement ça devrait s'arrêter ces trucs-là puisque maintenant ils les rémunèrent justement. Avant c'était le principe du fameux 10%. L'Indic repartait avec 10% de l'argent de la drogue saisie, voilà. Mais avec là en 2004 il y a eu la loi Perben pour justement encadrer et avoir recours aux Indic. Et d'ailleurs celui-ci, il était bien noté.
Officiellement comme un des indics...
Voilà, au bureau central des sources. Voilà,
hein. Comme un indic de l'Octis, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cet article. Donc il faut...
si, juste deux, trois...
C'était pas aussi simple, quoi. C'était...
Deux, trois petits trucs en plus, quand même. Je trouve peut-être aller un tout petit peu plus vite, un tout petit peu vite, mais... comment dire ? Ah, j'ai perdu le fil de mon idée. Ouais, donc deux trois trucs. Ce qui disait une des policières là, c'est que si ce qu'elle disait, c'est que si on veut travailler sur des grosses affaires de trafic, faut justement infiltrer des trafiquants et si possible des gros. Et que là, ce qu'on lit dans l'article et ce qu'on croit comprendre, c'est qu'on se demande s'il n'y a pas une espèce de guéguerre entre les services là quand même. On se demande.
Ça c'est une question qu'on peut se poser.
Parce oui, que, en fait, l'intervention des douanes ce jour-là à Paris, dans le 16e, avec Média et compagnie, François Hollande qui descend, ils ont tout simplement cassé le boulot de l'Octis, quoi.
Oui.
Qui était en train de préparer un coup pour arrêter. Donc, là, enfin, je pense que je trouve que c'est là l'intérêt un peu comique de la situation. C'est-à-dire que. On a eu un service qui lutte, qui est expressément créé pour lutter contre le trafic de drogue, qui se fait casser son boulot par la douane, et le président vient sur place pour féliciter les douanes, pour leur dire bravo, j'espère que vous avez porté un coup d'arrêt au trafic de drogue, alors qu'en fait il ignore que le travail qui a été fait d'arrestation de ce véhicule, il a justement contribué à empêcher les services de police à faire leur travail de répression et d'arrestation des trafiquants. Je trouve ça génial, quoi. Voilà. C'est incroyable.
Donc, d'ailleurs, il conclut comme ça, hein, l'article, hein, reste à savoir désormais ce qu'aura raconté Sofiane H, donc
l'indic trafiquant, ouais.
Lorsqu'il sera rendu à la France, parce qu'il a été arrêté en Belgique, hein, sous un mandat d'arrêt international, et se retrouvera confronté aux enquêteurs du 36, et peut-être un jour de l'IGPN, la police des polices.
Voilà.
Et donc, l'affaire promet sans doute encore des rebondissements.
Et juste, je voudrais terminer en citant ce policier à la retraite qui dit comme ça que les politiques font de la lutte contre le trafic de drogue leur priorité, ils veulent des résultats mais ne veulent pas savoir comment on les obtient. Après, c'est facile de jouer les vierges effarouchées. Aujourd'hui, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants est quasiment le seul service à s'attaquer au démantèlement des réseaux de trafic internationaux. Et la douane leur casse leur boulot. Et François Hollande félicite le service qui a cassé le travail de l'autre.
Ouais. Et d'ailleurs, a priori, 9 grosses prises sur 10 viennent des indics.
Voilà.
Voilà. Et ce qu'il disait, pour une histoire d'une tonne, c'est 10 à 20 000 euros...
De rétribution à l'indic.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'est sur ces mots que...
On va mettre un petit peu de musique. La section... Fait divers s'arrête et maintenant c'est la musique, à tout de suite.
Toutes les équipes de jardiniers parées à planter. Yeah, yeah. Je décidais par hasard cache que la main verte, l'expression de la création cité, un smokard de Saint-Emilia, mais pas de gras. Ouais, sache que la beuvette vient du ventre de la terre, notre mère. Jardin, enfile tes bottes et viens. Il faudra marcher dans la forêt par les petits chemins, car une tentation reste secrète, tu le sais bien. Tu ne dis pas n'importe quoi, tu n'amènes pas n'importe qui. Les chasseurs et les gendarmes sont nos ennemis. Fouineurs et les taxeurs le sont aussi. Je dis si t'es par hasard un de ces dreads horticulteurs, ta passion pour ces fleurs est tout à ton honneur. Si t'es un smoker, soutiens-nous les plantes. Sache que la beuvère vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, 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 yeah. Tu connais le développement, la floraison et le gel. L'eau de pluie est la meilleure, avec son pote le soleil. N'enlève pas ses feuilles au début, ton pied ne peut pas grandir. N'arrache pas toutes ses branches, man, tu le fais souffrir. Boycott la poudre chimique de chez Babylon Garden. Tu fabriques ton engrais naturel, ça en vaut la peine. Je dis si t'es par hasard un de ces cultivateurs modernes, sache que la main verte est l'expression de la création. Si t'es un smoker de Saint-Emilia, mais pas de gras, ouais, sache que la beuvette vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah. Tu as besoin de matériel quand tu le fais à l'intérieur. Tu es seul avec Dieu quand tu es à l'extérieur. Les productions chimiques au cœur du béton me rappelle ces poulets entassés à saouler néon. Lâche ton cas manipulé, ne me procure pas ce que je veux. Si je fume de la weed, c'est pour être plus près de Dieu. Je suis ici, c'est par hasard un de ces dreads horticulteurs, ta passion pour ces fleurs. Et tout à ton honneur, si t'es un smoker, soutiens-nous les plantes. Et sache que la beuvette vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh. Petit jardinier va trouver.
Pour planter sa beuh.
C'était Pierre Boljak, c'est ça ?
Bah ouais.
Cultivateur moderne.
Et donc, ça y est, c'est un article du Monde. On arrive un petit peu à commencer à parler du fond.
On va pouvoir s'engueuler maintenant, gentiment, sympathiquement. Vous allez voir pourquoi.
Ah, bah, en tout cas, le titre, ça part bien. Hein.
Oui, je suis d'accord.
Drogue, l'ONU défend la fin du tour répressif. Ah, adieu au tour répressif. À cette semaine de la tenue de la section extraordinaire de l'Assemblée générale des drogues et des Nations Unies. Quoi, des drogues
Des Nations Unies sur le problème mondial des drogues.
Voilà. Faut bien. Donc, c'est l'OICS qui a rendu un rapport. Donc, l'autre, hein, c'est. C'est pas l'UNGAS, hein, c'est encore autre chose.
De quoi ?
La session extraordinaire de l'Assemblée nationale.
C'est ça, ouais.
D'accord.
C'est bon. Exactement ça, ouais. Bah, UNGA, c'est United Nations General Assembly. Je me rappelle plus, mais bon, c'est ça, ouais.
Donc, c'est lui qui est d'accord.
Voilà. Alors après, bon, il y a le fameux rapport de l'OICS, là. Alors par contre, l'OICS, ça n'a jamais été un acteur progressiste de la question des drogues. Parce que l'OICS, c'est l'organisme de répression, même de contrôle et de référencement. Bon, voilà, donc
il invite quand même les États à réexaminer les politiques et les pratiques.
Ce qui est plutôt pas mal.
Qui est quand même une évolution.
Surtout venant de l'OICS.
C'est pas maintenant on va éradiquer le cannabis, le pavot et la coca. Hein. Ça change un petit peu dessus de thème. Alors bon, il ne s'agit non pas d'obliger le monde à choisir entre une action anti-drogue militarisée et la légalisation de l'usage de drogue à des fins non thérapeutiques. Hein, faut pas aller trop loin quand même. Hein, on va pas du jour au lendemain rayer tout ce qu'on a fait. Mais plutôt, il faut mettre la santé physique et morale au cœur d'une politique équilibrée en matière de drogue. Voilà, donc le rapport va un peu moins loin que celui de la commission globale sur la politique des drogues rassemblant d'anciens chefs d'État. Donc,
je peux faire déjà une première observation.
Vas-y, je t'en prie.
Alors j'aime bien ça. Il ne s'agit pas d'obliger le monde à choisir entre une action anti-drogue militarisée et donc d'un autre côté choisir la légalisation. Moi, ce que ça me fait, ce que ça me fait réagir, ce truc-là, c'est que le monde entre guillemets n'a jamais été obligé de choisir une action anti-drogue militarisée. Il y a plein d'États qui ont choisi délibérément cette action-là.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on n'a pas besoin de forcer les pays à mettre en place une action anti-drogue militarisée. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt les forcer à abandonner ça, justement, pour aller de l'autre côté.
Oui, il faut que ça soit aussi absurde que la peine de mort, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, que le fait d'interdire les drogues, ça devienne aussi absurde.
Ah, d'accord, oui.
Voilà, ou qu'interdire l'homosexualité, quoi, les trucs basiques des droits de l'homme. Quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà, bon, c'est vrai. Donc l'OICS, donc, sont vraiment, voilà, là-dessus, c'est vraiment l'objectif. C'est la santé physique et morale de l'humanité, puisque c'est l'objectif essentiel des traités internationaux. Donc c'est vrai ça, voilà, notre santé morale, vu que nous sommes traités et nous devenons des délinquants, est mise à mal à cause de ces lois, donc il faut les changer, je suis bien d'accord avec eux. Voilà, donc après dans l'article qui est assez complet, hein, cet article de l'ONU, il rappelle toutes les conventions de 1961, 71, 88, voilà comment tout ça, ça a évolué.
Alors, ces trois conventions, elles prévoyaient déjà quand même de conférer le caractère d'infraction pénale au trafic des drogues et aux infractions connexes. Mais on nous dit quand même que dans ces traités, hein, qui ont fait des dégâts de manière énorme, dans ces traités, il y a déjà des dispositions qui permettent d'appliquer des mesures de traitement ou de réadaptation en remplacement ou en complément de sanctions pénales. Dans les cas de possession, d'achat de culture de drogue ou pour une consommation personnelle, blablabla, blablabla. Enfin, voilà, on sait bien que c'est pas ce que les États ont choisi. C'est pas ces orientations-là qui sont pourtant dans les conventions. Ce que les États ont choisi de mettre en place, c'est des solutions répressives et criminalisant les usagers.
Voilà, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a 189 États ont ratifié la convention?
De 88.
Voilà, et donc 170 ont adopté une approche répressive. Donc il y en a quand même 19 États qui n'ont pas une approche répressive, ce qui est peu.
Ou moins répressive que les autres.
Ouais, moins répressive que les autres.
Non mais quand c'est l'OICS, il faut tout revoir, faut tout descendre de plusieurs niveaux. Hein. Non mais sérieux, on a l'habitude, ça fait 15 ans qu'on en parle.
Bon alors là, je sais pas si c'est les chiffres de l'OICS, mais sans doute, c'est un rapporteur, Bernard Leroy, qui explique qu'en France, par exemple, il y a 150 000 interpellations de simples usagers par an, mais parmi ces derniers, seulement 1500
Mais j'hallucine, je rêve, je suis le cul par terre quand je lis cette phrase. On n'arrive pas à savoir exactement où il y a une espèce de chiffre noir sur le nombre de consommateurs de cannabis qui se retrouvent en prison chaque année en France. Et lui, là,
il nous donne
le chiffre et il est multiplié quasiment par 3 par le chiffre qu'on estime depuis plus de 10 ans.
Bah oui. Ça veut dire que c'est terrible.
1500 c'est incroyable.
Simples usagers sont en prison.
Alors que nous, on dit entre 500 et 800 par an. Hein.
Ah,
et là, on
fait,
entend 1500 sur 150 000 interpellations.
De simples usagers.
Et lui, il nous dit seulement 1500. Non mais j'y crois pas. Ce Bernard Leroy, il devrait passer un mois en prison. On verrait, ça lui changerait peut-être les idées. Bref.
Mais bon, en tout cas, moi, c'est bien, on cherche les chiffres maintenant.
Je trouve que c'est une gaffe, à mon avis, qu'il a fait.
Oui.
Une espèce de... Enfin, c'est très bien en même temps. Et ça fout en colère, quoi. Alors, effectivement, dans l'article, on nous parle d'autres pays avec lesquels on se dit, on a peut-être de la chance d'être en France. C'est vrai que la Chine, le Vietnam, l'Iran... Par exemple, là, on nous parle de l'Iran, où au début des années 2000, il y avait très peu de gens qui passaient dans le cadre, dans le cadre d'un programme de méthadone, par exemple. Aujourd'hui, en Iran, ils sont à peu près 25 000, donc il y a quand même un progrès. On est d'accord. Mais on sait aussi que la Russie, par exemple, en Russie, eux, ils sont anti-programme de réduction des risques. Voilà. Pour les Russes, les prostituées, les usagers de drogue, c'est la prison. C'est ce que faisait la France jusqu'en 1990, à peu près. Voilà. Et donc la Russie est confrontée à un gros problème d'épidémie d'hépatite, de VIH et tout un tas d'infections transmissibles sexuellement.
Il n'y a aucune politique de réduction des risques en Russie. Hein,
alors, il n'y en a plus, parce qu'il y en a eu avant.
Oui, non mais...
Entre 1991 et l'an 2000, la Russie était même assez en avance. Et ouais, avec la montée de Poutine et son ancrage au sommet de l'État russe, il a fait disparaître les programmes de réduction des risques en Russie, quoi.
Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, malheureusement, hein, c'est que de ce rapport de l'OICS, c'est pas une surprise venant d'eux, hein, rejette la légalisation des stupéfiants. À des fins non médicales, qui n'est pas une solution adéquate pour régler les problèmes existants. Alors ils sont, c'est là, ils se marchent sur les pieds, quoi. Enfin, ils sont contre, ils sont plutôt pour l'abandon du tout répressif, mais en même temps, il faut pas changer la loi, il faut que ça reste défendu. Et comme c'est défendu, on sait bien que la police, son travail, c'est d'arrêter des gens qui font des choses défendues. Bon, on voit pas bien ce que ça va changer.
On va voir. Après, ce qui est assez marrant, c'est Didier Gell.
Ancien président de la MILDT à l'époque, la mission internationale.
Du temps de Sarkozy, je ne me trompe pas.
Tout à fait. Non, donc, du temps de Sarkozy, ministre de l'Intérieur.
Oui, on avait dit.
Chirac, président.
Ouais. On pensait, c'est quand tout était gelé à la mille, c'était après Nicole Maestrachi. Bon, pour les
ouais, tout à fait.
Bref. Alors lui, il a évolué, au moins. Ce rapport présente un changement de tonalité. Donc lui, pour la première fois, il insiste sur les droits de l'homme, hein, l'inutilité d'incarcérer les toxicomanes et le devoir de les traiter dans les meilleures conditions. Donc voilà, où il parle de la politique de réduction des risques. Bon. Et il rajoute, la limite de l'OICS, c'est là qui te rejoint, qui est le gardien des conventions sur les drogues, reste dans... le même modèle de contrôle du cannabis qui est devenu d'usage courant. Donc il explique qu'en étant le gardien du temple, on est forcément bloqué et qu'on ne peut pas trop évoluer. Sinon après, en lisant le rapport, il retrouve deux choses. Il met l'accent sur des phénomènes inquiétants, donc les grandes inégalités d'accès aux analgésiques majeurs.
Aux antalgiques majeurs,
voilà, comme le morphine ou les opiacés. Et la deuxième chose, c'est l'explosion de nouvelles substances que l'on trouve. Donc c'est
facilement sur Internet, des drogues dites de synthèse.
Voilà.
D'ailleurs, il y a un jeune de 17 ans qui est mort à Villeurbanne en sortant de l'espace Double Mix ce week-end, après avoir consommé un produit de synthèse.
Ouais, donc
voilà,
petite parenthèse. On en a déjà parlé, hein, d'ailleurs, il y avait eu justement au début...
Un cas Annecy.
Ouais. Voilà, ces cas Annecy. Maintenant, on commence à savoir beaucoup plus ce que c'est, donc c'est des produits quand même très très forts. C'est, c'est soi-disant cannabis de synthèse, donc c'est une molécule assez proche du THC.
Alors là, pour le...
Mais qui n'en est pas forcément exactement.
Pour le cas du double mix, c'est pas du cannabis de synthèse, ça serait plutôt un dérivé d'amphétamine.
D'accord.
Voilà. Mais ça inquiète. Voilà. Et c'est comme ça. Et alors, dans le cas du double mix, le jeune qui a acheté le produit sur Internet dit clairement, j'ai pas eu l'impression d'être un dealer, c'est pas un produit interdit. Voilà. Et donc, en interdisant les drogues utilisées de manière ancestrale et populaire, en interdisant ces substances, on redirige forcément des consommateurs vers d'autres créneaux d'approvisionnement avec des produits qui sont pas... Voilà, qui sont dangereux.
Voilà, donc l'organisme onusien précise même que l'un des problèmes les plus importants parmi ceux qui se posent depuis peu est l'arrivée de produits chimiques de remplacement non soumis à contrôle, dont les précurseurs sur mesure qui permettent de contourner les contrôles.
Voilà.
Leur fabrication est légale au regard du cadre juridique international existant. Voilà, donc pour lui, il faut rééquilibrer... la politique actuelle. Donc c'est plus la rééquilibrer à notre goût, c'est la changer totalement. Mais c'est bien connu, on est des doux rêveurs.
En attendant, en France, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, je rigole encore, ah, ça fait rigoler. Ils sont marrants. C'est pour ça que le symbole du cirque, c'est un clown. Bah ouais, ils sont tellement drôles. Donc Cazeneuve, lui, il se répète et donc il nous annonce des mesures puissantes pour lutter contre le trafic de drogue. C'est déjà les termes qu'il avait employés l'année dernière. Et visiblement, il a pas changé de manière de faire. Voilà. Donc c'est la France, elle continue à être dans le tout répressif alors que le monde entier abandonne ça. Voilà.
Voilà, donc un autre article qui parle un petit peu des changements. Hein. Alors c'est Le Temps suisse. Alors je sais pas si lui il parle.
Le Temps.ch.
Le Temps.ch. Donc je sais pas s'il parle vraiment du truc international ou juste de ce qui se passe en Suisse. Mais bon, ils disent la guerre à la drogue s'éteint et après. Voilà, donc ils partent. Voilà leur introduction, c'est les stupéfiants ont été une aubaine coloniale, un produit prohibé, la cible d'une croisade, et maintenant. Ouais. Donc c'est un département de sociologie en Suisse.
Hein. Oui, je dis
que maintenant que la croisade est peut-être terminée, que la guerre contre les drogues déclarée par Nixon en 69 va s'arrêter peut-être. On n'est pas encore sûr. Une nouvelle ère s'ouvre qui s'annonce raisonnable. Et tout le monde se pose des questions et personne n'a des réponses sur qu'est-ce qui va se passer. Avec ce monde où les drogues vont de nouveau être légales. Tant. Donc le GREA, ce qui est partenaire, donc le GREA, on a dit tout à l'heure, c'était le groupement romain d'études addictions.
Roman,
tout à oui. fait. C'est... Excusez-moi. Avec les Suisses, je m'y perds un peu. Donc ils vont faire plein de choses sur les drogues dans tous leurs états.
Ouais, ils vont organiser des débats, des réunions en fait pour discuter de tout ça. Donc ça a commencé la semaine dernière mercredi, hein, si je ne me trompe pas, avec un historien français qui était invité, Alexandre Marchand, qui était l'invité principal, plaçant la prohibition des stupéfiants dans une perspective historique, ce qui devait être extrêmement intéressant. Mais il y a des bons bouquins hein, pour ça. Je vous conseille Le Dragon domestique de Anne Coppel et Christian Bachmann. En l'occurrence.
Voilà, là ils n'en disent pas grand-chose, hein. Ils vont très très vite, hein. Ils rappellent un peu ce qui s'est passé. L'amalgame de la marijuana, il faut se rappeler quand même, 19e siècle, hein, c'était pas interdit du tout la marijuana. Hein. Donc,
tout à fait.
Le commerce était totalement légal. Donc cannabis dans le Maghreb français, l'opium en Indochine française, ou la Java Coca, cocaïne de Java dans les Indes néerlandaises. Donc c'était des produits légaux. Mais les choses ont commencé à changer à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où il y a eu une distinction entre l'usage médical et l'usage non médical des stupéfiants. Donc le médical ou le récréatif, comme on le dit aujourd'hui. Et donc à partir de là, les ligues de vertu anglo-américaines ont imposé l'idée de réglementation internationale. Vous savez, c'est ces mêmes ligues de vertu hein, qui ont été arrivées à avoir la prohibition de l'alcool.
Oui, et puis qui après ont remilité pour qu'il soit relégal.
Voilà, mais bon, pour l'instant, ils ont pas, ces ligues ne militent plus pas pour que le cannabis ou que les drogues deviennent légales.
Ah ben non.
Voilà, donc petit à petit, c'est devenu illégal et tout le monde s'y est mis. Hein, donc on a mis l'opium et la coca, et puis on y a rajouté. On y a rajouté le cannabis, hein, ce qui était bien pratique puisque ça permettait de bien contrôler la main-d'œuvre immigrée d'origine mexicaine qui la consommait.
Alors, le cannabis, pas tout de suite. Hein.
Voilà, c'est
pas
pour
en
ça que
1912, c'est après. Hein.
Voilà, oui, il fallait trop vite, oui, tout à fait. Les deux premiers, c'était l'opium et la coca en 1912, et le cannabis, donc, n'y est arrivé qu'en 1937 pour les raisons qu'on vient d'évoquer, donc, pour contrôler la main-d'œuvre mexicaine.
Alors au niveau international, pas encore, non, pas en 1937, c'est après, excuse-moi, je te contredis un peu. En 1937, c'est les États-Unis tout seuls qui ont prohibé le cannabis avec le Marijuana Tax Act, suite à la campagne de propagande de monsieur Anslinger, qui craignait de voir les subventions attribuées à son administration qui luttait contre la prohibition de l'alcool, donc il craignait qu'avec la relégalisation de l'alcool, il perdrait ses subventions et son boulot. Et du coup, Anslinger a milité, oui c'est le mot, hein, a fait une campagne de propagande en finançant des articles de presse mensongers pour dire aux Américains que le cannabis était dangereux, que les Noirs en fumaient et qu'ils violaient des Blanches, etc., etc., que c'était des joueurs de jazz aux mœurs débridées qui en consommaient aussi. Donc voilà, la prohibition du cannabis, elle se marque avec le Marijuana Tax Act en 1937. Mais il a fallu attendre encore quelques années avant que le cannabis se retrouve visé par des conventions internationales, mais bon, c'est ce qui a été fait. Hein. Et puis en 1961, je sais pas si tu veux, t'as des choses à dire avant 1961, mais la convention unique sur les stupéfiants de 61, c'est Harry Anslinger hein, qui a fini par imposer la prohibition du cannabis au monde entier après l'avoir imposé aux États-Unis. Là, je suis allé un peu vite. Oui, c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là.
Sur tout l'article.
Oui, bah après, on est vraiment dans le détail.
Ça, hein. T'as pas trop parlé, ouais.
Non, mais l'article est très très bon, hein. Il est assez court et très synthétique et très intéressant.
Tout à fait.
Voilà, le temps.ch, la guerre à la drogue s'éteint et après. Voilà, je redis juste le titre, parce qu'on va pas le lire en entier.
Il y a plein de conférences, mais ça se passe tout à Genève, donc voilà, si vous êtes intéressé, hein, c'est autour du... Il y en a en mai, il y en a en mars, il y en a un petit peu partout.
Bah c'est jusqu'au 18 mai, voilà. 40 boulevard du Pont d'Arves à Genève, salle MR160, c'est une entrée libre. Il y aura aussi une conférence le 9 mars d'Île-de-Rue dans un quartier genevois, résultat d'une enquête de terrain avec Loïc Pignolo et Christian Benlagdar de la faculté des libres des sciences économiques et de gestion de Lille. Christian Benlagdar qui est un sociologue et un économiste je crois qui sort un livre et qui a sorti un ouvrage il y a à peu près un mois, je crois que c'est intitulé « De l'intérêt de sortir le cannabis des réseaux criminels », quelque chose comme ça. Un bouquin qui a l'air plutôt de bonne facture. Voilà.
Allez, on fait un petit peu de musique et puis on revient pour la...
Pour la fin.
À maquer l'instrument qui se sonne la crabe, vous en soit une aile traditionnelle marseillaise.
Des batatis que nous allons faire tous les deux. Quand la boulette est petite, faut-il faire un joint ou deux? Faut-il tout fumer de suite ou regarder un petit peu? Répondez-moi, je le veux.
Moussu, tu tombes à pique, ce sujet je connais bien. J'ai tant d'années de pratique que mon choix sera certain. Moi, je fais un micro-stick et le reste dans un coin. Je le garde pour demain.
rigueur, c'est vraiment grave, je te reconnais bien là. Ta tactique est super naze, car on n'est jamais fracas. Mets-toi donc à la gauloise et cours aussitôt au tabac. Ils n'attendent plus que toi.
Rester poli.
Qu'est-ce que j'ai dit, hein?
Quand il n'aura plus que dalle, qui viendra faire le joli, qui partira en cavale au beau milieu de la nuit pour un choco de cambouis.
Gary Gray, mets la ceinture car j'élève le débat. Même si pour toi c'est dur, quand on aime on compte pas. Et dans l'Afrique en future, il n'existe qu'une loi. Fumer ne calcule pas.
Ah ouais. Nous suites, si on t'écoute, on est dans un beau merdier. On est moute même en début de soirée. À 8h on est couché.
Gary, ça me prend la tête, je vais te dire franco.
Ouais, dis-moi.
Je te fais me rouler un pet et j'y mettrai tout le morceau. Et sur une autre planète, je partirai aussitôt. Loin de tes plans de porno.
Fan à lui. Moussu, t'es allé, dégage, tu m'as gonflé le testo.
Ah, tu parles mal.
Et si j'étais pas si brave, ça finirait en baston.
Allez, la violence, allez, vas-y.
De parole, tu te caves, mais c'est moi qui ai le chichon. Tu vas rester comme un con.
Crois-le, hein.
Hop, la bande de Mastram. Il faut arrêter les frères. Viens dire de Jovastram. Vous allez nous faire manquer. Donnez-moi cette boulette. Et deux feuilles de Rizlan. Un morceau de cigarette. Et ça ira comme ça.
Voilà, et c'était Tension de Bambou par Massilia Sound System. Allez, on reste où ? 8 minutes, ça va être dur. Hein.
Ouais, bah on va revenir rapidement par cette analyse belge, toujours de l'UNGAS, hein, donc toujours dans la session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies, sur demande d'États membres, donc sur un sujet. Et cette année, c'est la problématique des drogues qui a été demandée grâce au Mexique, le Guatemala et la Colombie, qui ont appel à ce grand débat important pour la suite de l'humanité.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces Belges ? Donc, ils rappellent que le marché noir est tel, s'élève quand même à 320 milliards de dollars. C'est pas seulement une petite paille. Oh. Donc, en matière de drogue en général, hein, de toutes les drogues. Hein.
Oui.
Non, mais juste pour qu'on ne confonde pas. Et puis,
de toutes les drogues illégales.
Voilà. Et
ouais,
puis,
pas légales.
De toutes les drogues illégales, bien sûr.
Eh oui.
Donc, rappelle que 80% des gens ont été condamnés pour simple possession. Dans 33 pays, la peine de mort est toujours appliquée pour trafic. En plus, il y a les effets néfastes de la prohibition sur la santé des consommateurs, tenus à rester dans l'illégalité, donc l'hépatite C, le VIH, les overdoses. Voilà, et tous ces problèmes sanitaires, ça coûte aussi 1000 milliards de dollars qui sont dépassés chaque année. Non, pas seulement, c'est surtout la politique anti-drogue. Voilà, 1000 milliards de dollars, c'est la politique anti-drogue. Donc c'est même plus élevé que ce que rapporterait le marché noir.
Ouais.
Mais bon, voilà. En tout cas, on pourrait avoir des réponses alternatives à tout ça. Et donc les traités internationaux sont souvent restés le motif par excellence pour empêcher le développement de ces politiques alternatives. Donc il y en a, hein, y a comme ce qui s'est passé aux Pays-Bas, hein, avec les coffee shops, où on est toujours dans une certaine dépénalisation, avec les cannabis social clubs en Espagne. Et aujourd'hui, donc en Belgique, puisque c'est des Belges qui parlent, sur la décriminalisation de l'usage de toutes les drogues. Voilà. Portugal, donc là c'est au Portugal, pardon. La Belgique, c'est quoi ? Ah oui, c'est les Cannabis Social Club qui est en Belgique, je m'étais trompé. Donc voilà, le dernier c'est le Portugal, hein, ça fait plus de 10 ans, il faut le rappeler. Donc toutes les drogues sont décriminalisées. Voilà, il y a les mouvements de légalisation actuellement dans plein d'États nord-américains. Voilà, l'Uruguay aussi qui a légalisé. Et puis, il rappelle aussi, Evo Morales a aussi tenté de légaliser la coca, comme quoi, bon, il y a quand même plein de petites expériences qui se passent de ci, de là.
Ouais, mais en Amérique latine, il faut avoir confiance en eux. C'est eux qui vont nous montrer la voie. Et bah, l'Amérique latine et les États-Unis.
C'est eux qui ont convoqué l'Inga.
Eh oui, donc c'est pas pour rien.
Voilà. Ouais, ça, c'est le côté pile, hein, le côté face. C'est ceux qui sont toujours pour plus de prohibition.
Comme la Russie, comme on disait tout à l'heure.
Voilà. Mais bon, le consensus n'existe plus aujourd'hui. Là-dessus, il y en a qui veulent qu'on sorte de ce tout répressif.
Bah, à partir du moment où on n'est plus dans le tout répressif, il ne peut plus y avoir de consensus.
Oui.
Parce que le consensus, il est que sur le tout répressif. Donc forcément, il ne peut plus y avoir de consensus dès lors qu'on sort du tout répressif. C'est évident. Et c'est pour ça que ça va être dur. Et que, encore une fois, au risque de passer pour un rabat-joie pessimiste, mais c'est pour ça que ça va prendre longtemps.
Tu penses que la Russie va sortir son droit de veto là-dessus ?
Non, je ne sais pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que pour qu'on passe d'un consensus au tout prohibitif, parce que pour le coup, bah, malheureusement, ça a fait avancer les choses dans la direction du tout prohibition. Mm. Si on veut qu'il y ait vraiment un mouvement... avec un vrai élan qui soit lancé vers l'anti-prohibition, il faut qu'il y ait un consensus, à mon avis, aussi, vers un abandon du tout répressif. Et ça, ça va prendre un moment. Voilà. Ça va prendre longtemps, d'autant plus que, pour que tous ces pays adoptent le tout répressif, un certain nombre de ces États ont été, pour ainsi dire, j'ai envie de dire manipulés et forcés d'adopter ces politiques par les pays occidentaux. Donc maintenant, il faut leur faire abandonner ça. Il faut qu'on leur dise, bah, en fait, on vous a dit de faire comme ça de manière péremptoire. On s'est trompé.
Oui, non,
mais, maintenant, il faut revenir en arrière.
C'est les autres qui disent maintenant, hein, vous nous avez imposé ça. Maintenant, il faut qu'on en sorte. Quoi. C'est n'importe quoi ce que vous nous avez imposé.
Oui, mais on voit bien qu'il n'y a pas de consensus
là-dessus.
Donc
c'est eux qui nous disent, et eh, oh, ah, vous les grands blancs, arrêtez de croire
bah, c'est quelques...
que vous savez
c'est...
tout, arrêtez d'interdire les drogues de...
bah, c'est qui... oui, non,
du
mais
Sud
c'est...
et d'autoriser les vôtres.
C'est le Mexique, le Guatemala et la Colombie hein, uniquement hein, qui sont vraiment appelés pour ça. Bon, après on sait que Kofi Annan pousse pour que justement on abandonne la criminalité, enfin la guerre à la drogue. Il y a les anciens chefs d'État, on est d'accord, mais après les États en eux-mêmes, c'est là où c'est compliqué, quoi. Bref, voilà.
Bon, en tout cas,
vous avez compris que c'est compliqué.
L'article appelle la Belgique à reconnaître, à repartir là-dessus.
Ouais, juste, je voudrais citer l'article de. Donc, voilà, c'est altereco.be, international vers plus de flexibilité en matière de drogue, point d'interrogation, par Marinette Mormont, article du 1er mars, qui est quand même intéressant. Je vous invite à vous rapprocher de cette publication. Voilà. Pour terminer, très vite, hein, il nous reste 2 minutes. On a 3 articles. Un article à propos de la légalisation du cannabis en Uruguay avec un bilan à nuancer.
Ouais, mais alors, c'est nous opinion internationale, je ne sais pas qui c'est. Alors déjà, ils disent que c'est légalisé depuis 3 ans, depuis le 23 décembre 2013, c'est vrai, mais ils oublient qu'il y a eu des décrets d'application et tout ça, et qu'il y en a très très peu. Il n'y a pas grand chose, c'est vrai, on n'apprend pas grand chose dans cet article.
Le ramage, bon, vaut pas le
plus. À part que ça se fait, voilà, à part que tout le monde regarde ça à les yeux rivés sur l'Uruguay.
Voilà, tous les pays du monde.
Voilà, donc c'est vrai qu'ils avancent, ils reculent, ils ont légalisé le cannabis en pharmacie, puis ils l'ont enlevé, voilà, ça a changé de présidence.
C'est vrai,
oui, ça avance très lentement. Alors, on apprend que c'est qu'il y a une chose quand même qui marche pas très très bien et où les gens se posent des questions, c'est qu'il même il faut se faire enregistrer comme fumeur de cannabis. Donc c'est bien tant que ça reste illégal et avec ce parti, mais quand ça va changer, comment ça va se passer ?
D'où des risques de stigmatisation. Ouais.
Voilà, donc ça c'est quand même la plus grande crainte que cet article soulève, même si c'était pas ça qu'il voulait soulever, je pense.
Pas que ça.
Voilà, bon, bah, là-dessus il y avait pas grand-chose à dire. Voilà, c'est
juste, on peut rappeler les coordonnées. Donc opinion-internationale avec un e, hein, .com. Légalisation du cannabis en Uruguay, un bilan à nuancer, un article du 4 mars dernier, opinion-internationale.
Voilà, ce qu'ils disent, ils affirment que le réel mal dont souffrait l'Amérique latine ne relevait pas tant de la consommation, mais bien du commerce illégal de drogue et des violences qui en découlent. Voilà, et l'essentiel est là, c'est peut-être là-dessus qu'ils vont arriver à tomber d'accord, hein. Mais rien n'est moins sûr. Voilà, mais je crois qu'on ne parlera pas des autres. Hein.
Non, après l'article sur la légalisation à casse-tête au Canada,
on y reviendra
pas
la semaine
plus
prochaine.
Beaucoup de choses, à part les propos de Hugo Saint-Onge, hein, qui est un peu le responsable du cirque canadien, le Bloc Pot. Voilà, on essaiera de revenir là-dessus. De toute façon, le Canada, on en parle quasiment toutes les semaines.
Oui, que, ça évolue pas mal
en
ce
évolue,
moment.
Ça évolue. Puis bon, ils mettent en route leur légalisation. Voilà.
Allez, c'est allez.
La fin de Cannabis Circus. Juste pour terminer, il nous reste une toute petite minute pour que je vous donne nos coordonnées.
Non, on est juste en retard, mais c'est
mais
pas
non,
grave.
Il est 22h. On a, eh ben, on a 30 secondes pour donner les coordonnées 59. Du cirque. Non. Donc, le cirque Lyon, que vous pouvez joindre par téléphone 06 11 53 10 07. Je veux donner les coordonnées du cirque. Mon collègue du cirque m'empêche de les donner.
53 10 07 06 11
53 10 07. Vous pouvez nous joindre par voie postale Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. Et vous pouvez nous joindre par mail cirque-lyon@no-log.org ou visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr. Avec plein de bonnes affaires en ce moment à faire avec des partenaires canards responsables. Je vous invite à vous rendre sur le site internet du Cirque Lyon. Voilà, c'est tout. Merci.
Allez, ciao à tous.
À la semaine prochaine, au revoir.